Merci, bonjour à tous. Bonjour. On va s'entraîner, on s'échauffe un peu. Bonjour à tous.
Bonjour.
Ok, j'ai senti qu'on n'était pas tout à fait accordés. Avant de plonger, j'aimerais juste insister, on a vécu des choses vraiment fortes dans ce temps de louange et on a terminé en chantant quelque chose de très important et puis j'ai envie de dire aussi de très dangereux. Hein. Prends ma vie. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous dites à votre patron, par exemple. Bonjour patron, fait plaisir, on a passé un chouette week-end, il a fait chaud, prends ma vie. C'est important de dire ça et de ne pas le dire à la légère et de ne pas le dire à n'importe qui. Et j'ai envie de dire juste en introduction, si vous n'êtes pas à l'aise à le dire, pour le moment c'est ok. Mais ultimement, à un moment donné, notre vie n'est pas à nous. Et il faut savoir à qui est-ce qu'on la donne. C'est ok si ce matin on n'arrive pas à le dire, c'est tout à fait ok. C'est ok si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne savez pas encore où vous vous situez. Mais le temps passe. Et un jour notre temps ici s'arrête. Et à ce moment-là, la réponse à qui est-ce que tu as donné ta vie est très importante. Puis j'aimerais dire aussi peut-être à quelques-uns qui se disent quand même, dimanche matin, autant d'excitation. Les gens se lèvent, crient, tapent des mains, prennent des drapeaux, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous dire... On est passionné par ce Dieu-là qui a transformé notre vie. Et si ça vous surprend, allez voir les passionnés. Allez voir les festivals en été. Je ne sais pas si vous avez vu des images du palais ou quoi. Je vous assure, on est encore calme ici. On est encore très calme. Mais dans nos cœurs, il y a une passion. De se savoir vu, connu, aimé d'un Dieu qui désire avoir une relation personnelle avec nous, qui ne nous doit rien, mais qui nous a tout donné. Alors c'est pour ça que on est un peu excité, puis je vous explique pour vous dire aussi qu'on ne s'excuse pas d'être aussi excité que ça. Comment, ça va? Vous allez bien? Ok. J'aimerais vous remercier de m'accueillir. J'aimerais tout spécialement dire merci à votre pasteur Thierry pour la confiance. Je ne prends vraiment pas à la légère le fait d'apporter la parole. J'aimerais honorer aussi vos responsables. Ça a été dit, j'ai eu le privilège aussi, on a eu le privilège avec mon épouse Janet d'être ici des années durant. En tant que les enfants de votre pasteur Mwanza, ancien pasteur Mwanza. Et puis on est parti implanter une église dans la région de Lausanne. J'aimerais vous donner quelques nouvelles de Home, si ça va pour vous. Ça va pour vous? Quelques nouvelles rapidement. Vous savez, vous faites partie de ceux qui nous avez bénis, qui nous avez libérés. Je pense que c'est important de vous donner des nouvelles, que vous sachiez un peu comment ça va. En ce moment, ça va bien. Aujourd'hui, Home, ça correspond en fait à deux églises dans la région de Lausanne qui regroupent environ 250 personnes. En juin, on a encore eu la joie de célébrer 6 baptêmes. Ça fait depuis le début de l'aventure que chaque année, on a des baptêmes. Et puis, il y a une nouvelle série de baptêmes qui se prépare pour septembre. Et puis, plutôt que de vous donner des chiffres ou des statistiques un peu ennuyeuses et barbantes, j'aimerais vous raconter deux histoires rapidement de deux personnes de notre communauté parce que je crois que les histoires parlent plus que les chiffres. Ces deux histoires sont issues des personnes qui ont été baptisées récemment. La première, c'est une dame qui a plus de 50 ans. Période de Covid, vous connaissez, confinement, elle se sent extrêmement seule à la maison, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, d'un coup, elle a la conviction de dire « Dieu, si tu existes, fais-moi un signe ». Et alors qu'elle est seule au milieu de son appartement, qui n'a pas de service de louange même sur Internet, qui n'a pas une liste de louanges sur Spotify, elle a une rencontre avec Dieu à ce moment-là. Elle a une rencontre, elle sent cet amour, elle sent, voit qu'il dit « J'ai toujours été avec toi, je t'aime ». Et du coup, elle se dit « Il faut que je trouve une église ». Alors, elle vit dans la région de Lausanne, elle tape « Église Lausanne ». Elle se trouve à tomber sur Home et on est au milieu du confinement et elle se met à regarder un petit peu ce qu'on fait, les programmes en ligne. Finalement, elle nous découvre, elle nous suit et quand elle arrive, vous savez, c'est ces moments où on ne se connaissait pas, mais on se connaît déjà. « Oh Yves, comment tu vas ?» Bien, depuis la dernière fois, quand est-ce que c'était? Et sa vie est transformée, elle est passionnée, elle se baptise, elle amène sa famille à son baptême. Et je lui demande comment ça va, et c'était la semaine passée encore, elle me disait à quel point elle était reconnaissante d'avoir une famille spirituelle. La rencontre avec Dieu ne dépend pas de nous, ça dépend de son Saint-Esprit. Mais cheminer avec Dieu va demander une famille spirituelle. Et elle dit, je suis tellement contente d'avoir cette famille spirituelle. Je suis tellement contente de pouvoir venir, de pouvoir tisser des liens. Puis je lui dis, puis ça va parce qu'elle est au travail, elle est dans les soins. Et puis sans doute que vous le savez, en ce moment, c'est compliqué, toujours, après Covid, dans les soins. Et puis elle dit, j'ai jamais été aussi bien au travail. parce que alors que j'y suis, j'ai cette conviction, je ne suis jamais seul. Il est avec moi. Home, c'est aussi l'histoire d'un grand gars qui vient curieux, mais aussi extrêmement sur la défensive. Il est en colère, il est venu en Suisse d'Afrique contre son gré, il est sur la défensive, il a vécu avec des familles un petit peu de... Voilà, c'est pas des pures adoptions, c'est plus des familles d'accueil, et c'est difficile pour lui. Mais sa sœur vient chez nous, puis sa sœur lui dit « viens quand même une fois ». Alors il vient sur la défensive, pendant des mois, il ne parle à personne. Il s'assoit, il écoute les messages. C'était une des personnes les plus assidues. Je pensais qu'il était à l'université. Il prenait des notes, surtout pour essayer de voir où est-ce que ça allait pas, qu'est-ce qui... Et puis, dans la colère, et puis petit à petit, à force d'un bonjour, à force d'un comment ça va, à force d'un ça me fait plaisir de te revoir, il y a son cœur qui s'ouvre, et puis il commence à accueillir des frères et des sœurs dans sa vie. Et à force de ça, après des mois et des mois, il vient me parler. Il me dit « je voulais pas te parler ». Enchanté. Je ne voulais pas te parler, mais pourquoi tu me parles aujourd'hui? Parce que je ne peux pas faire autrement, merci. Merci de ce que vous faites. Et puis quelques mois après, il me dit, est-ce que j'ai entendu parler des baptêmes, est-ce que je peux me baptiser? Et il donne sa vie à Dieu, et il continue à cheminer avec nous. Et ça, c'est le genre d'histoire qui nous font du bien, c'est le genre d'histoire qui explique pourquoi on fait ce qu'on fait. On veut voir le royaume de Dieu avancer, on veut voir les gens être sauvés, on veut dépouiller l'enfer une personne après l'autre. Ça c'est notre mandat, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et puis on est vraiment reconnaissant de tout ce qu'on vit. Et puis la dernière des choses qui en tout cas est pour nous aujourd'hui une des nouvelles, c'est qu'on a décidé depuis le début, on avait envie de grandir, on a eu à cœur de multiplier, on a déjà 2 églises et on va continuer à multiplier. Et on se réjouit de pouvoir l'année prochaine commencer Home, la même aventure avec des nouvelles personnes, mais sur la région genevoise. Alors, Home Genève va arriver l'année prochaine. On se réjouit de pouvoir faire ça. Et tout ça, c'est grâce avec vous. Et on se réjouit de participer au mandat que Dieu vous a donné dans cette région. À vos côtés, c'est un privilège pour nous de pouvoir venir dans cette région. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, on va se plonger dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Un de mes mentors me pose régulièrement une question qui va nous accompagner tout au long de ce message. La question, c'est comment va ton cœur? Alors, je vous la pose ce matin, comment va ton cœur? Comment va ton cœur? Et je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même ou tous une bonne compréhension de ce que je veux dire par cœur quand je dis ça. J'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ce concept avant d'aller de l'avant. Historiquement, c'est intéressant, je vous parle un tout petit peu du contexte gréco-romain. Il était généralement admis que nos passions, nos désirs étaient intrinsèquement liés à notre corps. Et puis que la raison, la volonté ou la pensée, c'était qui nous étions réellement, notre âme. Donc, pour faire simple, être vertueux dans ce contexte gréco-romain, c'était avoir un esprit plus fort que notre corps. D'accord? Ça va? Vous suivez? C'est bon. Si vous étiez une personne loyale, intègre, vertueuse, ça veut dire que vous ne suiviez pas les passions de votre corps, mais que vous suiviez le raisonnement, la raison. La pensée, la raison devaient toujours l'emporter sur nos émotions. La période dans laquelle nous sommes a complètement retourné cette réalité. Le philosophe Charles Taylor le dit comme ça, il dit « Nous sommes dans l'ère de l'authenticité. Il n'y a plus d'autorité dans nos vies. » Et dans ce contexte, on doit regarder au fond de notre âme, nos désirs les plus profonds, nos rêves les plus profonds, nos sentiments les plus profonds, et tout faire pour les réaliser. C'est tout à fait ce qu'on vit aujourd'hui. Nos sentiments et nos désirs, c'est souvent ce qu'on dit être le vrai nous. C'est différent, hein ? D'un côté, on disait vos désirs, vos pulsions, vos envies, laissez-les de côté, suivez la raison. Puis aujourd'hui, on dit non, la raison, les grandes idées, tout ça, laissez de côté, suivez vos pulsions. Donc on a vécu comme un renversement. On a inversé les choses. Et quand je dis « comment va ton cœur ?», je ne sais pas exactement à quoi vous pensez. Peut-être que vous pensez « comment vont mes rêves ?»« Comment vont mes désirs ?»« Comment vont mes émotions, mon vrai moi ?» Et ce n'est pas tout à fait ça que j'aimerais vous dire. J'aimerais vous proposer rapidement la compréhension du cœur dans le contexte biblique. Alors il y a des livres et des livres et des livres qui ont été faits. Je vais vous donner un résumé un peu grossier, vous m'excuserez. Mais j'ai envie de vous dire, la compréhension du cœur dans la Bible est tout à fait différente de ce que le monde dit et même de ce que le monde disait. Dans la Bible, le cœur est considéré non pas comme le siège de nos émotions, mais comme le siège de ce en quoi nous avons mis notre confiance. Le siège de ce qui dirige notre quotidien, ce envers quoi nous sommes engagés, ce en quoi vous avez mis votre confiance pour construire votre vie. C'est ça le cœur. Une façon un peu vulgaire de le dire dans le monde chrétien, c'est ton adoration. Ce que tu adores, voilà ce qu'il y a dans ton cœur. C'est quoi ton cœur ? C'est le siège de ton adoration. Donc ce n'est pas tellement tes émotions ni ta raison, c'est le centre de ton attention. Le siège de ce qu'on va adorer. Dans ce sens-là, le cœur va affecter notre pensée, notre volonté, mais aussi nos émotions. On va soumettre nos émotions et soumettre notre raison et soumettre notre volonté à ce qu'il y a sur notre cœur. Donc c'est important de se poser cette question, comment va mon cœur ? Tim Keller le dit ainsi quand il en parle, la compréhension biblique du cœur est relativement unique dans l'entier de la pensée humaine. Si vous étudiez les philosophies, les pensées, c'est très rare, quasi impossible d'avoir cette compréhension du cœur. Le cœur, c'est ce qu'on adore. Alors maintenant, considérez avec moi une parole extrêmement célèbre de Jésus qu'il donne dans ce qu'on appelait le Sermon sur la montagne. Il dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Intéressant, hein ? Ton trésor, c'est là où tu portes ton attention, c'est ce qui dirige ta vie. Considérons aussi Proverbe 4, le verset 23. Un tout petit instant, on va rester dessus. Le Proverbe 4, verset 23 nous dit la chose suivante. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ton cœur, ce n'est pas seulement tes désirs, ce n'est pas seulement tes émotions, ce n'est pas seulement « Ah, j'aime bien ça. » Pour tous ceux qui aiment la pizza, ce n'est pas ça. Mais ton cœur, ce n'est pas non plus ta raison, ta capacité de comprendre dans ton cœur. Ce qui siège dans ton cœur, c'est ce que tu adores. Et le même Tim Keller que j'ai cité dit la chose suivante, on a été créé pour adorer. Et du coup, on adore tous quelque chose. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on adore. Et Jésus nous disait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il semble dire quelque chose qui va dans cette direction, lui aussi. Et plutôt dans les proverbes, on nous dit « Garde ton cœur parce que de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu de garder votre cœur. Alors je vous repose cette question, comment va ton cœur ? Comment va ton cœur ? Quand vous restez sur l'image de proverbe, « Garde ton cœur parce que de lui jaillissent. » Les sources de la vie, ça fait penser à l'eau, ça fait penser à une rivière. Il n'y a pas besoin d'être trop bon en interprétation textuelle pour le réaliser, n'est-ce pas ? On parle de sources, on parle d'eau, on parle... Alors je me suis renseigné un tout petit peu et j'ai appris que dans certains villages, encore aujourd'hui, certaines petites villes aussi, il y a littéralement les gardiens des sources. C'est comme un mandat, ce n'est pas tellement un métier, mais c'est comme un mandat qu'on donne à certaines personnes. Et leur travail, c'est d'aller régulièrement... pour voir si rien n'obstrue la source. Est-ce que la source va bien ? Parce que l'entier du village et de tout ce qui va suivre dépend de la source. Alors il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils voient est-ce qu'il n'y a pas d'animaux morts qui sont trop près ? Parce que les maladies pourraient aller dans l'eau et puis ensuite polluer l'entier du cours d'eau. Ils vont regarder aussi si, quand, par exemple, en ce moment, il semble qu'il y a de la pluie et puis un petit peu de vent, merci Seigneur. Ils vont regarder s'il n'y a pas des bouts de bois, des choses qui obstruent la source au risque qu'on ne puisse plus profiter. Et je me demande, quand on suppose que c'est Salomon qui écrit « Veille sur ton cœur », je me demande s'il n'avait pas cette idée-là. Fais attention parce que de lui, il y a beaucoup de choses qui vont couler. Fais attention à ce qui se passe. Est-ce que régulièrement, on va regarder comment ça se passe dans notre cœur ? Et je repense à mon mentor qui dit « Comment va ton cœur ? » ?»« Comment va ton cœur ?» Que rien ne vienne polluer notre cœur, que rien de toxique ne soit trop proche de notre cœur. Alors j'ai pensé pour vous, j'ai fait le travail, pensez à des choses comme l'amertume, la frustration, la déception. Je me demande si ce n'est pas ce genre de choses toxiques qui pourraient venir polluer un petit peu les sources qui devraient jaillir de notre cœur. J'ai aussi pensé à d'autres choses, la convoitise, la comparaison, les ragots, comme des choses qui peuvent venir polluer notre cœur, obstruer notre cœur. Puis j'aimerais, avant qu'on se plonge dans le texte principal qui va nous accompagner ce matin, encore ajouter une précision, parce que j'ai fait les études là pour vous. Il y a une différence entre pollution et dilution. La pollution, c'est des choses qui peuvent nous faire du mal, qui viennent en général de l'extérieur et qui ne sont pas bonnes. Il y a des corps étrangers qui arrivent, ça pollue. La dilution, c'est différent. C'est les choses qui viennent, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui petit à petit diminuent un des éléments qui était essentiel. Et du coup, je réfléchis en disant, il y a sans doute des choses qui peuvent polluer mon cœur, mais il y a peut-être des choses qui viennent diluer mon cœur, des choses qui viennent diluer la partie de Jésus qui est censée être pour mon cœur. Parce qu'en tant que disciple, là, si jamais c'est spoiler alerte, normalement c'est Jésus qu'on adore. En tant que disciple, c'est Jésus qui devrait être à cette place et c'est lui qui devrait diriger notre cœur, notre vie, notre pensée, nos émotions. Ce n'est pas pour rien qu'on a chanté « Prends mon cœur, prends ma vie ». Du coup, je me dis peut-être qu'il y a des choses qui viennent polluer. J'ai donné quelques exemples potentiels, mais peut-être aussi qu'il y a des choses qui viennent diluer. Quelques exemples. La quantité énorme d'informations qu'on consomme au quotidien, est-ce que ça vient diluer la part ? Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir de l'information, mais la surinformation, est-ce que ça ne viendrait pas diluer ? La quantité extrême de divertissement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, Netflix, Disney+, et tous les autres services d'abonnement. La quantité de possibilités, la quantité de voyages qui s'offrent à nous, est-ce que ça ne vient pas diluer la partie de Jésus qui est en nous ? Ce n'est pas des mauvaises choses en soi, mais si on n'est pas attentif, ça peut venir aussi diluer. Et je pense, ça c'est moi qui le dis, que dans la sagesse de garde ton cœur, on doit aussi veiller à cette dilution. Si vous voulez éprouver cette idée, vous pouvez lire, en anglais c'est Screwtip Letters, je ne sais plus le nom en français, C.S. Lewis, c'est un livre, Tactique du diable, en français, Tactique du diable. Très très loin du terme en anglais, c'est pour ça que c'était difficile de le retrouver pour moi. Tactique du diable, c'est littéralement un livre de fiction, d'accord ? C'est pas une réalité, c'est une forme de satire où en fait on voit un démon expérimenté parler avec un jeune démon apprenti et lui donner les clés et les tactiques pour faire dévier du chemin. Et là vous verrez qu'il y a autant la pollution que la dilution. Et qu'à un moment donné, il dit même « Laisse-le ! » Il a une nouvelle histoire d'amour, ça va l'empêcher un petit peu de penser à Jésus. Quand je pensais à tout ça, je pensais aux sources. Et je pensais à comment est-ce que je garde mon cœur. Et j'ai eu cette image qui m'est revenue, l'image de ceux qui gardent les piscines. Parce qu'ici, moi, je n'ai pas de source à côté de chez moi. Je n'ai jamais été gardien d'une source. Par contre, j'ai été souvent à la piscine. Et le matin, à la piscine, ils vont toujours vérifier l'état de l'eau avant d'ouvrir la piscine. Ils vérifient en fait les quantités. Nous, on ne le voit pas. Nous, on regarde, on se dit tout va bien, on peut sauter dans l'eau. Mais il y a un gars qui est en train de retirer l'eau, qui fait 2-3 tests. Attendez, vous ne pouvez pas encore sauter dans l'eau. Attendez, ok, le pH est bon, tous les autres ingrédients. Et je me dis, ça devrait ressembler à ça, garder son cœur. Ça devrait ressembler à nous qui allons checker régulièrement notre cœur. Comment ça va, mon cœur ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues polluer ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues diluer ? Est-ce que l'état de mon cœur est bon parce que de lui jaillissent les sources de la vie. Comment va ton cœur ? Et j'aimerais proposer ici que la plupart du temps, nous ne gardons pas tout à fait bien notre cœur. Si tu n'es pas d'accord, ne sois pas d'accord, c'est bien, ça t'appartient. Dis-toi que je parle pour moi. J'ai dû apprendre à garder mon cœur. Et je continue à essayer de le faire. Et pour ça, maintenant, on va se plonger dans un texte un peu plus conséquent de la Bible. Je vous invite à prendre vos Bibles à Matthieu au chapitre 13, on va lire ensemble une parabole que Jésus donne. Je donnerai un tout petit peu de contexte sur cette parabole. Elle est une parabole extrêmement connue, elle parle d'elle-même. On est dans Matthieu 13. Et puis pour ceux qui prennent des notes, en d'autres termes les bons, Le titre de mon message, c'est « Les jardins de ton cœur ». Pour ceux qui ne prennent pas de notes, je vous aime aussi, vous en faites pas. Je sais que vous prenez des notes avec votre cœur, vous. Les jardins de ton cœur. On va lire maintenant Matthieu 13 à partir du verset 4. On va lire les versets 4 à 9. Et puis ensuite, on va sauter et lire les versets 18 à 23. C'est pour une question de temps, c'est pour rester focus sur la parabole que Jésus enseigne. Entre deux, Jésus explique simplement pourquoi il parle notamment en parabole à ses disciples. Donc je me permets une petite ellipse dans le texte. Matthieu 13, versets 4 à 9, c'est Jésus qui parle. Il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Je passe maintenant au verset 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. » Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est vraie et elle est vie aujourd'hui encore. Que par ton Saint-Esprit, nos cœurs soient réceptifs. Que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous transformer, Seigneur. Que cette parole produise l'effet que tu désires. Nous t'accueillons. Amen. Je vous disais le titre, « Les jardins de ton cœur ». À plusieurs égards, cette parabole, je pense beaucoup, si pas tout le monde l'a entendue, elle fait partie, à n'en pas douter, d'une des paraboles les plus connues de Jésus. Elle est centrale à l'enseignement de Jésus. Elle est considérée comme l'une des premières paraboles qu'il a racontées. Ça dépend toujours de qui en parle, ça dépend aussi des évangiles dans lesquels on se trouve. Elle fait partie d'un groupe assez petit, des paraboles qu'on trouve dans ce qu'on appelle les trois évangiles synoptiques. Ça veut dire que autant Matthieu, Marc que Luc, les évangélistes qui ont rédigé ces lettres, ont décidé de mettre cette parabole. Et encore plus rare, elle fait partie des quelques paraboles desquelles Jésus a donné lui-même un commentaire. Ce qu'on a lu à partir du verset 18, c'est Jésus qui commente lui-même sa propre parabole. C'est très rare de trouver ça dans la Bible. Elle ouvre aussi une série de paraboles qu'on a appelées les paraboles du royaume des cieux. Et Jésus, avec cette parabole notamment, mais d'autres aussi, veut vraiment enseigner sur le royaume des cieux. Alors elle est vraiment connue, elle est assez simple, mais j'aimerais la paraphraser rapidement. On a ici un homme qui sème et il y a comme quatre types de terrains. Des terrains où la semence ne peut rien produire, on appelle ça le chemin. Des terrains où la semence produit difficilement, c'est les rocailles, le chemin où il y a les pierres. Des terrain où la semence produit au départ un peu, mais finalement est étouffée et ne peut pas produire correctement les ronces, et finalement un terrain où la semence produit largement. Très souvent, et ça fait complètement du sens, on imagine en parlant de ces terrains quatre types de personnes. Jésus lui-même en parle et dit « il est comme un homme », comprenez aussi par là comme une femme, d'accord mesdames, vous êtes tout à fait intégrées et incluses dans cette parabole. Et souvent, on se dit, c'est quatre types de personnes. Et c'est tout à fait juste, c'est tout à fait bien d'interpréter comme ça. C'est une parabole, il peut y avoir différentes grilles de lecture. Moi, j'aimerais vous proposer que ces quatre types de sols sont dans tous nos cœurs. les jardins de ton cœur. J'ai envie de vous proposer que parfois, certaines régions de notre cœur sont un peu comme le chemin. Parfois, d'autres régions de notre cœur sont un peu comme un terrain rempli de ronces. Parfois, d'autres régions de notre cœur sont comme remplies de cailloux. Et c'est avec cette idée que j'ai envie de reprendre avec vous ces différents terrains. Et en fait, c'est comme un entraînement. J'ai envie de vous donner des clés et de vous entraîner à veiller sur votre cœur, à garder votre cœur. Alors, on va commencer avec le premier terrain. C'est bon pour vous ? Vous êtes toujours là ? Ça marche. Non, c'est toujours intéressant de savoir que je ne suis pas seul. Avec cette idée en tête, posons-nous la question, est-ce que certaines parties de mon cœur peuvent être arides et ne plus être capables d'accueillir les graines du royaume ? Se peut-il que certaines parties de mon cœur soient devenues comme le long du chemin, pour citer Jésus lui-même ? Alors j'ai envie de vous donner deux, trois exemples qui, à mon avis, ont créé ça, à n'en pas douter chez beaucoup de gens. La saison de laquelle on sort tout fraîchement, ça a sans doute eu cet effet sur des projets, sur des rêves, sur des situations. Pensez au Covid, pensez à l'isolement, à l'enfermement, pensez à ce qui se passe au niveau du marché économique, à la guerre, aux injustices sociales, au racisme, les doutes et les questions concernant le climat, l'insécurité qui grandit, les pertes d'emploi. Toutes ces choses-là peuvent faire comme si on endurcit un peu des parties de notre cœur. Ici, je ne parle pas de tout notre cœur. Je parle de certaines parties qui ne sont plus capables d'accueillir les graines du royaume. Je parle de certaines parties qui sont comme piétinées. Et là, je vous ai parlé des situations externes. La plupart d'entre nous, on a vécu ça, mais il y a peut-être des situations d'un point de vue beaucoup plus personnel qui peut créer ça. Quelques exemples, des relations difficiles, des échecs scolaires, amoureux, des amitiés rompues, la perte d'un proche. Ces choses-là, les amis, ça peut créer quelque chose, ça peut comme piétiner notre cœur et donner des parties du cœur qui deviennent arides. Le chemin, c'est le lieu où la terre n'est pas meuble, où la graine ne peut même plus se planter. Et je vous assure, je dis ça comme ça, puis la plupart vous dites, c'est pour quelqu'un d'autre. Cette parole, ce n'est pas pour moi. Je pense que ça, c'est sans doute le terrain que j'ai vu le plus chez les chrétiens. Regardez notre façon de lire la parole de Dieu et de décider que des pans entiers de la parole, c'était pour un autre temps. C'était pour d'autres personnes. On n'y croit plus nous-mêmes. Il y a, je crois, des aspects de nos cœurs où le royaume ne peut plus se planter. Et quand je le dis comme ça, moi, ça me fait peur. Je n'ai pas envie que des parties de mon cœur ne soient plus capables d'accueillir des graines du royaume. J'ai envie que les graines du royaume puissent toujours trouver racine dans mon cœur. Alors je dois vraiment me poser la question. Et si vous vous demandez, voilà trois questions pour vous. Est-ce que tu es devenu cynique, désillusionné ou amer? Ça, c'est l'exemple d'un cœur qui a été piétiné. Une deuxième question. Est-ce que tu considères abandonner l'Église? Tu sais, l'Église est censée être le lieu qui se bat pour expérimenter et manifester le royaume de Dieu. Donc quand tu commences à considérer abandonner l'Église, c'est sûr que ton cœur a un peu de peine avec les graines du royaume. Une troisième question. Est-ce que tu crois encore que Dieu peut agir? Ou alors est-ce qu'il y a des situations où tu ne t'attends plus du tout à Dieu? Je compte sur mes propres forces. Je chante, hein. À l'église, je chante parce que tout le monde chante. Ennuyeux d'ailleurs, mon voisin ne chante pas juste. Mais je chante, oui Seigneur, je te fais confiance, jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et là, je fais confiance beaucoup plus à mes compétences, à mes connaissances, aux personnes que je connais, aux médecins, qu'à Dieu. Et j'ai rien de mal contre ça, hein. Merci Seigneur pour les connaissances. Merci Seigneur pour les compétences. Merci Seigneur pour la médecine. Mais est-ce que j'ai encore confiance que Dieu peut agir? Et si tu as répondu, ça c'est moi, à une de ces questions, le cynisme, l'abandon de l'Église, ou alors le fait qu'on ne s'attend plus à Dieu, Il est possible qu'une partie de ton cœur soit devenue comme le long du chemin. Quand la terre est tellement piétinée, quand le terrain de nos cœurs n'est plus disponible, les amis, il faut qu'on ose aller creuser. Il faut qu'on ose aller creuser. Et alors j'ai une toute petite expérience en jardinage. Je ne vais pas prétendre savoir grand-chose. J'ai quand même quelques expériences. Hein. Pendant quelques mois, on a eu un bac. On a fait pousser des choses, on a réussi. J'ai été chercher tout ça, j'ai travaillé ce bac quelques heures. Mais je sais une chose, parce que j'ai fait les études. Aller planter sur un chemin, les amis, si vous voulez planter sur un chemin, ça va demander beaucoup de travail. Ça va demander de creuser, et c'est un travail qui est difficile. Au départ, ça ressemble à rien. Si, imaginez un instant, ok, je vois qu'il y en a d'autres qui ne sont pas jardiniers comme moi. Imaginez un instant que quelqu'un veut commencer à planter au milieu du passage piéton quelque chose. Ça, c'est un chemin. On est assez d'accord de dire que si on jette des graines dessus, rien ne va se passer là. Les graines vont être envolées. C'est exactement ce que le texte nous dit. C'est une évidence. Et si quelqu'un maintenant, Daniela, décide de dire « je vais aller et puis je vais creuser parce que ici, Dieu demande de planter quelque chose. » Au début, on va la prendre pour une folle, soyons honnêtes. On va lui dire « va ailleurs ». Elle dit « non, c'est ici que je dois creuser maintenant. » Et elle va commencer à creuser et au début, ça ressemble à rien. Ça va lui demander de creuser beaucoup plus. Si quelqu'un d'autre avait décidé de creuser dans la terre, là derrière, rapidement, il pouvait se mettre à planter. Elle, pour se mettre à planter, il faudra qu'elle creuse longtemps. On nous dit, et ça c'est, encore une fois, j'ai fait les recherches, hein, on nous dit qu'il faut creuser deux fois plus profond quand vous voulez creuser sur un terrain qui a été piétiné, dans un terrain où il n'y a plus rien. Il faut creuser deux fois plus profond que les autres terrains. Il faut enlever beaucoup plus de choses. C'est plus longtemps que nécessaire si on veut que quelque chose puisse pousser. Mais je crois que quand on garde notre cœur, c'est aussi aller creuser les jardins devenus arides. C'est aller creuser ces jardins. Et j'aimerais vous donner une image qui m'a fait penser à ça. C'est une image dans les orphelinats. Peut-être que vous avez visité des orphelinats. Au départ, j'ai caricaturé pour vous, pour faire simple. J'ai dit qu'il y avait trois types d'enfants. Il y a les enfants qui sont tout fraîchement arrivés à l'orphelinat. Ces enfants-là, quand ils vous voient, ils courent vers vous. Ils vous tendent les bras, ils vous écartent les bras. Ils sont ouverts à recevoir de l'amour de votre part. Ils espèrent avoir de l'amour de votre part. Les deuxième groupe d'enfants, eux, ils sont dans la crainte. Ils regardent, mais ils ne viennent pas forcément en courant. À cause de déception, à cause de parcours, ils regardent et se disent « Est-ce que la personne va me voir ? Est-ce que la personne va m'entendre ? Est-ce que la personne va m'accueillir ? Est-ce que c'est possible ?» Et il y a un troisième groupe d'enfants, souvent les plus âgés. Eux ne viennent même plus voir. Ils n'y croient même plus. Ils sont cyniques. « Bah, ça c'est pour les autres. Je suis trop vieux. Je suis trop ci. Je suis trop ça. J'ai pas assez de... Personne n'a voulu de moi jusque-là. » Le terrain aride, c'est un peu ce terrain-là, les amis. Et pour ce terrain-là, il y a un travail beaucoup plus grand. On a des amis qui sont familles d'accueil. On a des amis qui ont accueilli des enfants et peuvent vous dire la différence. Quand vous prenez tous les contextes d'adoption, tous les contextes de famille d'accueil sont difficiles, ont leur lot de défis, de challenges. Mais quand vous prenez un grand, il y a beaucoup de choses à déconstruire avant de pouvoir recommencer à construire. Hein. Il y a du temps à passer. À ce que l'autre s'ouvre à vous, à ce que l'autre fasse confiance. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez des parties de votre cœur qui sont arides, ça va demander un long travail. Et j'ai envie de vous encourager tout de suite à ne pas partir seul dans ce travail. Dites à quelqu'un de confiance, et il y a une partie de mon cœur qui est devenue aride. Je vais aller travailler là, mais c'est sûr que je vais vouloir abandonner à un moment donné. Donc aide-moi. Aide-moi, tiens-moi redevable. Voilà la stratégie que j'ai décidé de mettre en place pour travailler ce terrain. Est-ce que tu es d'accord de venir avec moi ? Est-ce que tu es d'accord de faire des veillées de prière pour moi ? Est-ce que tu es d'accord de te tenir avec moi dans des périodes de jeûne ? J'ai vraiment l'impression que Dieu invite plusieurs ce matin à oser aller vers ces parties arides du cœur, aller dans ce jardin et faire le travail difficile de rendre la terre à nouveau disponible aux graines du royaume. Et il y a une chose que je sais, parce que je suis passé par là. Une des choses que tu ne pourras pas manquer, c'est d'arroser ton jardin avec tes larmes. Ce terrain-là, il va falloir pleurer dessus. va falloir pleurer dessus, ça passe par nos larmes, où on ose pleurer, où on ose laisser notre souffrance, laisser nos frustrations, laisser nos déceptions, mouiller nos cœurs, afin de pouvoir commencer le travail difficile de rendre ce jardin de nouveau disponible. Écoutez juste ce verset, juste pour vous, là, c'est bonus. Osée 10, verset 12. Osée, c'est un prophète, un petit prophète. Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Écoutez la deuxième partie. Défrichez pour vous un nouveau champ. Défrichez pour vous un nouveau champ. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des cœurs qui sont devenus tellement, des parties du cœur tellement arides qu'il faut oser aller défricher un nouveau champ. Alors ça, c'était la première partie, le premier cœur, le premier jardin, pardon. On passe au deuxième. Étant donné que vous êtes smart, que vous prenez des notes, aidez-moi, c'est quoi le deuxième ? Certains disent les ronces, tout le monde est d'accord ? Les pierres ! Ceux qui ont dit les ronces, merci d'avoir répondu quelque chose, vous avez lancé quelque chose. Il faut toujours un courageux ou une courageuse qui se lance. Mais c'est d'abord les cailloux. Les cailloux, j'aimerais vous proposer que c'est un peu comme des choses qu'on n'a pas tout à fait réglées. Des situations, des relations qu'on ne gère plus. On continue, mais on sait que tout n'est pas rose. C'est un peu, et ça c'est une expression qu'on connaît, mettre la poussière sous le tapis. C'est bon, c'est clean, hein ? Par contre, attention, pas trébucher sur le tapis, parce que... C'est comme mettre les problèmes sous le tapis, on sourit, on fait comme si tout allait bien, mais écoutez bien ce que Jésus nous dit, les racines du royaume ne peuvent pas prendre. C'est peut-être joli, là, en apparence, mais il n'y aura pas de fruits. Les racines du royaume ne peuvent pas prendre. Avec Janet, mon épouse, on est à 12 ans de mariage cette année, on a célébré 12 ans de mariage, on a 4 enfants, vous les avez vus, ils font partie de ceux qui ont été chercher des bras. Parce que quand vous avez 4 enfants, vous n'avez plus assez de bras à 2 parents. En anglais, il y a cette expression « we are at number », ils sont plus nombreux que nous là. Et avec Janet, on est passé par une saison de grosses conversations. Et avec ces mêmes mentors qui nous posent cette question « comment va ton cœur ?», on s'est rendu compte que dans la construction de notre couple, on avait comme à un moment donné, sans vraiment le dire, sans vraiment le savoir, on avait comme mis en place une pièce qu'on remplissait de situations. On remplissait de disputes, on remplissait de blessures, puis on fermait la porte simplement. La vie, tu sais, on n'a pas le temps. On s'aime, ça va, on met ça de côté, puis c'est bon. Puis un jour, c'est comme s'il n'y avait plus de place dans cette pièce, elle était remplie. Alors on ne pouvait plus mettre les nouvelles disputes dedans, et puis on n'arrivait plus à fermer la porte, alors les anciennes disputes commençaient à sortir aussi. J'espère que vous rigolez parce que vous voyez de quoi je veux parler. Hein. C'est pas simple cette histoire-là. Et ce qui s'est passé avec ces mentors, c'est qu'ils nous ont dit, ok, on va faire quelque chose, si c'est une zone de confiance, on va s'asseoir et puis on va sortir les choses de cette pièce les unes après les autres. Et on va les poser sur la table. Et si vous voulez pouvoir construire votre couple et continuer à construire votre couple, il va falloir trouver quoi faire avec ces choses-là. Mais cette pièce, vous n'avez plus le loisir de la remplir comme ça. Et cette pièce, elle est pour autre chose que Dieu veut faire dans votre vie. Et si vous la remplissez avec ces disputes, Dieu ne peut pas faire l'autre chose qu'il a envie de faire. Alors on est entré dans cette démarche et les amis, ce n'était pas facile. Encore une fois des larmes. Encore une fois, des conversations sérieuses, douloureuses, des demandes de pardon. Mais on avait besoin de faire ce travail-là pour aller de l'avant. Et je crois que c'est une bonne illustration de ce que c'est que les cailloux dans notre marche avec Dieu. Quand je pense à des cailloux dans notre marche de disciples, c'est parfois des blessures vécues dans l'église. Je sais, vous allez me dire, personne ne se blesse dans les églises parce que vous êtes à Genève. Mais dans les autres églises, il y a des blessures, hein, si vous n'étiez pas au courant. Parce que comme un autre ami me le disait, c'est pas possible de danser sans se marcher sur les pieds. Alors si vous voulez danser avec le nombre que vous êtes là, vous allez vous marcher sur les pieds. Là. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des déceptions. Et il faudrait surtout pas, parce qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes, qu'on mette ça sous le tapis et qu'on prétende qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est comme un caillou sur le jardin de notre cœur. Et les graines du royaume ne vont pas pouvoir trouver racine et elles vont mourir. C'est parfois des blessures vécues dans l'Église, c'est parfois des désaccords entre des individus, c'est parfois des attentes non répondues. Et ce genre de moment, ça dépose des cailloux dans nos jardins. Et ça fait que les graines du royaume, une fois de plus, ne peuvent pas aller en profondeur. Je crois que c'est pour ça qu'on doit oser aller chercher des cœurs complets. Moi, je suis fasciné de voir comment les jeunes chrétiens, les gens qui se baptisent, ont vraiment le désir de faire de l'ordre dans leur vie. Mais les vieux chrétiens pensent que ça reste ordré tout le temps leur vie. J'ai autant besoin que le nouveau de checker mon cœur. J'ai autant besoin que le nouveau. Il y a quelqu'un qui me demandait comment est-ce que tu fais, comment est-ce que ça fonctionne. Une fois par année, je vis avec ce mentor que je vous parle un genre de thérapie. Où il me pose les questions, où il me dit où est-ce que tu en es, où il me demande comment va ton cœur. Et puis à chaque fois qu'il me pose cette question, parce que je lui fais confiance, la première chose qui vient, c'est des larmes dans mes yeux. Je n'avais même pas conscience qu'il y avait ces larmes qui étaient là. Mais quand il me pose la question, et quand j'ose regarder dans mon cœur, je dis en fait, il y a des frustrations. En fait, j'ai des déceptions. En fait, il y a des choses que je n'ai pas compris. En fait, il y a des choses qui m'ont blessé. Et il faut qu'on fasse ce travail. Ne pensez pas que parce que vous suivez Jésus depuis quelques mois, vous n'avez plus de travail à faire. On doit continuer à faire ce travail, les amis. On doit continuer à faire ce travail. C'est sûr, on doit le faire, et puis c'est un travail en profondeur avec les nouveaux. Mais ça ne nous exempte pas, nous, de faire ce travail. Alors, encore une fois, comment va ton cœur? Est-ce qu'il y a des parties arides? Est-ce qu'il y a des parties avec des cailloux? On arrive au troisième. Ceux qui répondent vite savent de quoi on parle. Les ronces. Et les ronces, j'ai envie de vous proposer que c'est les soucis petits et grands du quotidien. Si quelqu'un n'a pas de soucis du quotidien, est-ce qu'il peut lever la main qui prie pour moi à la fin? Je parle d'un souci du quotidien très frais. La nuit passée, nos enfants, les derniers, ont décidé qu'il ne fallait pas dormir. Allez comprendre. Alors qu'on était prêts. Vous savez sans doute, ceux qui ont des enfants, ce moment où vous vous réjouissez, c'est le temps d'aller au lit. Et qu'un de vos enfants se réveille et que vous vous dites « Non, la lolo », et puis il repart. Et qu'une heure et demie après, vous dites « Mais pourquoi il n'est pas reparti ? Pourquoi il continue ? Pourquoi il pense qu'on doit s'habiller ? Pourquoi il montre les chaussures ?» Et quand finalement, à 2h du matin, je le vois qui commence à s'endormir et je comprends dans sa respiration qu'il part dans un sommeil profond, alors avec toutes mes compétences de ninja, sans le déplacer d'aucune façon dans la position qu'il a adoptée, en prenant dans ma bouche la lolo, en prenant sur ma tête la patte, le doudou, en marchant sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller les 3 autres qui dorment quand même, ce serait bête, en le déposant avec la plus grande délicatesse dans son lit, l'entendre faire un grand... Je me dis, c'est bon. Je ressors. Je suis aussi agile et affûté qu'un chat. Personne ne m'entend, pas même Janet qui dort, et je m'allonge à côté d'elle. Je me faxe dans le lit littéralement. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fax, tant pis pour vous. J'arrive là, je me dis, c'est bon. Dans 5 heures, j'ai 5 heures avant mon réveil. Et qu'une heure plus tard, Janet me dit, tu peux y aller. Et son frère qui s'est réveillé, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les petits soucis du quotidien. Et ça, c'était cette nuit, et je pourrais vous raconter la suite parce que ce n'est pas encore fini, mais question de temps en avance. Donc, si quelqu'un n'a pas de soucis du quotidien, qu'il prie pour moi, s'il vous plaît, priez pour nous, que les soucis du quotidien s'arrêtent. Mais il y a de fortes chances que vous ayez aussi des soucis du quotidien. Et au passage, ces soucis nous forment aussi. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué combien les soucis de notre quotidien, petits ou grands, peuvent étouffer les graines du royaume. Je sens que vous voulez un exemple, vous ne voyez pas de quoi je parle. Rappelez-vous la fois où, je suppose pour vous, vous avez commencé à prier avec passion. Ce soir, Dieu, c'est toi et moi, je prie. Et vous vous mettez à prier. Et vous avez l'impression que ça fait longtemps que vous priez, que vous avez vraiment sorti les gros sujets, l'artillerie lourde, même la Bible d'études. Et vous réalisez, ça fait 15 minutes que vous priez. Et là, subitement, il y a la pensée de ce WhatsApp non répondu, d'un peu plus tôt, d'un collègue qui vous demandait une situation. Et là, vous avez comme un dilemme, est-ce que je vais continuer mon temps de prière? Ah, je vais vite régler ça. Et alors que vous voulez vite régler ça, vous réalisez qu'il n'y a pas un, mais 26 messages non répondus. Je sais, on est tous pareils. Et là, bon, je l'ai fait vite, les 26. Mais arrivé au 25e, il y en a un qui dit « comme dans le mail que je t'ai envoyé ». Et là, vous dites « mince, j'ai pas vu ce mail ». Bon, rapidement, c'est mon smartphone, j'ai aussi l'application mail, j'ouvre mon mail, et là, 13 mails non lus. Ok, facile, 5, c'est des lettres de nouvelles que je ne lis de toute façon pas. Je jette, il en reste 8 à considérer. Je commence à considérer les 8, et là, l'ennemi fait bien les choses, Zalando. L'action qu'il ne vous faut pas manquer. Vous cliquez sur le lien « Erreur de débutant », vous vous retrouvez sur des pages innombrables d'actions que vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Et vous commencez à faire ça, c'est à ce moment-là que vous prenez votre carte de crédit, vous vous dites « mais mince, où est-ce que j'en suis dans ma limite de carte de crédit ?» Nouvelle tab, il faut que j'aille voir ma limite. Et finalement, c'est l'heure d'aller dormir. Vous ne vous souvenez même plus qu'au début, vous aviez prévu de prier. Les soucis du quotidien, les petits tracas du quotidien. La dilution que je disais avant. Et quand vous demandez à un frère, comment je peux prier pour toi ? Prie que j'arrive à prier. Je suis comme prie à chaque fois que je veux prier, il y a des choses qui viennent, il y a des bienvenus dans les ronces. Bienvenue dans ces choses qui viennent étouffer notre capacité à accueillir les graines du royaume. J'ai été des années durant avec la jeunesse. Et dans le contexte de la jeunesse, c'est sans doute le terrain que j'ai vu le plus. Parce que j'ai vu la plupart des jeunes qui ont une rencontre et qui vivent des choses fortes avec Dieu entre 14 et 16 ans. La plupart de ces jeunes, quand ils quittent, ce n'est pas à cause d'un désaccord théologique, ce n'est pas à cause de la louange n'est pas assez ci, n'est pas assez ça, ce n'est pas la couleur des chaises, ni même la couleur des murs. Mais souvent, c'est juste la vie. C'est juste la vie, j'ai pas le temps, les études, le projet, il y a telle personne qui m'aime bien, peut-être qu'on irait se mettre ensemble, j'ai plus le temps. J'appelle ça les ronces. Et vous me dites sans doute, Yves, les soucis du quotidien, on en a tous. Ma question, c'est combien de fois on a arrêté de laisser la place à Dieu à cause de l'état de notre compte en banque ? Il y a un chant, Jésus, je te suivrai. Mais nous, la suite de cette chanson, c'est si mon compte en banque le permet. C'est quand j'aurai résolu cette situation-là, c'est quand j'aurai enfin la maison, c'est quand j'aurai fini de payer mon leasing. Jésus, je te suivrai. Si cette personne me voit, si lui arrête de venir chanter à côté de moi, il chante toujours faux, c'est fou. Personne ne veut lui proposer des cours. Jésus, je te suivrai. Mais on a arrêté de suivre Jésus dans les faits à cause des ronces. Combien de fois notre compte en banque, combien de fois le regard du collègue est plus important que le regard de notre père, combien de fois on laisse les graines du royaume mourir étouffées à cause des soucis du quotidien. J'arrive à la fin les amis, en jardinage il y a une pratique importante qu'on appelle sarcler et il s'agit d'enlever la mauvaise herbe. Et alors que j'ai étudié ça, c'est intéressant, il y a plein d'outils qui marchent pour faire ça, c'est fascinant. Et en m'informant sur ça, je suis tombé sur cette réalité des contextes, des conseils. Il disait, et là je le cite, hein, c'est un site jardinage.ca, je sais quoi. Et j'ai fait les études pour vous, ok ? Il vaut mieux le faire le matin avant que le soleil ne soit trop haut. D'abord pour votre confort, et avec les chaleurs qu'on a eues, on peut comprendre. Mais aussi et surtout pour que la racine de la mauvaise herbe soit séchée par le soleil durant la journée. Vous savez, quand vous lisez jardinage.ch et que vous tombez sur des... Le Saint-Esprit vous convainc de quelque chose. Je me suis dit, ça c'est intéressant cette histoire-là. Il faut enlever les mauvaises herbes et laisser la lumière faire le travail. Plutôt que de nous essayer de résoudre nos soucis du quotidien, pourquoi pas dire, ok, ça je l'arrache, Seigneur, tu t'occupes de celui-ci, là, il a essayé de m'avoir, il a essayé de m'étouffer, je ne vais pas le laisser. Un des gars que j'ai vraiment écouté et suivi pour développer une vie de prière, il disait la plupart des chrétiens sont dérangés quand ils sont interrompus dans leurs pensées. Hein. Vous dites, ah mais ça me fatigue, je priais et puis d'un coup j'ai pensé à ça. Et il dit, chaque interruption, c'est une occasion de revenir vers Dieu. Et lui, il dit, à chaque fois que vous avez une interruption, dites, Seigneur, je pense à ça, je te le remets. Je reviens maintenant sur la suite. Seigneur, je pense à ce collègue, la conversation. Donne-moi des stratégies et je continue ma prière. Seigneur, je pense à... Et logistiquement, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Seigneur, tu es le maître de la logistique. Aide-moi et je reviens dans la prière. Puis il dit, à chaque fois, c'est des occasions de revenir. Et je pense à cette image d'enlever la mauvaise herbe et laisser la lumière faire le reste. Il n'y a que deux qui ont compris. Ce n'est pas grave. Les autres, vous processez ou vous prenez des notes, je sais. Alors on arrive au bout. Luc, Elina, est-ce que vous pouvez revenir? Comment va ton cœur ce matin? Et comment est-ce que tu t'assures de veiller, de garder ton cœur? Autant le garder de la pollution que de la dilution. Et comme je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'il s'agisse uniquement de quatre individus. Je crois qu'il s'agit de quatre jardins d'un même cœur et qu'on est tous concernés. Ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu n'as pas besoin de penser à ça. Tu dois quand même te demander, est-ce qu'il y a une partie de mon cœur qui est en ce moment dans un mauvais état? J'avais l'impression qu'après la saison qu'on a tous vécue, mais aussi dans une transition importante que vous vivez en tant que communauté, changement dans le leadership, nouvelle saison, projet de bâtiment, Dieu voulait vous inviter, tous, à veiller sur votre cœur. Comment ça va ton cœur? Puis je voulais tout simplement venir avec une des questions qui a été décisive dans ma vie par un de mes mentors et vous la poser. Comment va ton cœur? Et maintenant j'aimerais prendre un temps puis prier avec vous à propos des jardins de votre cœur. On a prié au tout début, en tout cas j'ai prié mais vous avez dit amen, donc vous vous êtes tenu avec moi dans cette prière. C'est-à-dire que le Seigneur par son Saint-Esprit touche nos cœurs. Et maintenant, je suis convaincu qu'il l'a fait, parce que le Dieu que je sers n'est pas inactif, il n'est pas lointain, il est soucieux, il vient vers nous quand on vient vers lui. On a l'impression que c'est nous qui allons vers lui, mais c'est lui qui court jusqu'à nous. Et par son Saint-Esprit, je suis sûr qu'il a révélé des choses à chacun d'entre vous. Puis j'ai envie de prendre un temps pour qu'on prie pour ça. Mais avant de prier de façon précise pour vos cœurs, je dois demander... Peut-être que quelqu'un ici n'a jamais invité Dieu à prendre cette place dans son cœur. Ou peut-être que quelqu'un a invité une fois Dieu, mais avec le temps, force est de constater que Dieu n'est plus sur le trône de son cœur. Puis je crois qu'avant qu'on prie sur ça, c'est important de donner l'opportunité de dire « Seigneur, je veux te mettre sur le trône de mon cœur ». Alors pour ceux qui n'auraient jamais pu faire ça, j'aimerais vous inviter à prendre une décision puis à dire, Seigneur, j'ai vu ces gens zélés, animés d'un autre esprit, déjà motivés le dimanche matin à chanter, et moi je ne comprends pas, mais je sais que tu n'es pas sur mon cœur et j'ai besoin de te laisser cette place. J'aimerais inviter certains qui se disent peut-être, ça fait longtemps que Jésus n'a plus cette place, puis c'est le temps qu'il revienne. Et si c'est votre cas, je vais vous demander de faire quelque chose de très audacieux, mais vous dire, on va vous accueillir, vous aimer, vous encourager et se tenir avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever là où vous êtes maintenant, pour qu'on puisse prier avec et pour vous? Si vous voulez accueillir Jésus dans votre cœur pour la première fois, ou simplement l'inviter à revenir alors que vous avez laissé d'autres choses prendre le trône de votre cœur, est-ce que vous pouvez vous lever maintenant? Waouh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Et ce que je vais demander, parce qu'on est en famille, c'est que les gens autour, vous puissiez mettre une main sur leur épaule, vous puissiez leur montrer, vous n'êtes pas seul là-dedans, c'est une belle décision, une belle nouvelle décision ou une décision d'un retour à Christ, entourez-les. Dans Luc 15, Jésus raconte une autre histoire et il parle d'enfants qui étaient partis loin de la maison et quand ils reviennent, on nous dit que c'est la fête, qu'ils sont entourés, qu'ils sont accueillis, qu'ils sont aimés, qu'on puisse entourer, accueillir, aimer ceux qui prennent cette décision ce matin. Qu'importe là où ils en sont, qu'importe le pourquoi, ça ne nous concerne pas maintenant. Maintenant, on veut leur dire, vous êtes aimés, vous êtes vus et Dieu vous accueille. Dieu vous accueille. Dieu vous accueille. Et je vais vous laisser quelques instants que vous puissiez parler à Dieu. Ceux qui se sont levés, commencez à lui dire votre désir, peut-être de revenir, votre désir de laisser à nouveau le trône de votre cœur à Dieu, ou alors le désir de lui laisser pour la première fois votre trône. Utilisez vos propres mots. Après, je vous conduirai dans une prière mais prenez quelques instants et parlez à votre Père. Vous invitez maintenant à prier avec moi. Tous ceux qui se sont levés, vous allez faire cette prière et puis la faire avec conviction, avec foi. La Bible nous dit qu'on croit dans notre cœur et qu'on le déclare par notre bouche, et on veut le déclarer par notre bouche. Mais j'aimerais inviter aussi tous ceux qui ont déjà fait cette prière, qui est une prière d'engagement avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Roi de notre vie. Répétez-la aussi pour qu'il soit entouré d'une famille. On va répéter ensemble, vous répétez après moi. On dit Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Merci de me voir. Merci de m'accueillir. Merci de m'aimer. Merci d'avoir envoyé ton fils Jésus mourir à ma place. Pardon pour mon péché. Pardon pour tout ce qui me sépare de toi. Merci de t'occuper de cela et de me pousser en nouveauté de vie. Je m'engage à te suivre. Seigneur, prends le trône de mon cœur. Je t'aime et je désire te suivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo! Et maintenant, j'aimerais vraiment encourager chaque personne qui s'est levée à en parler avec quelqu'un. Vous savez, vous avez pris une décision importante et je l'ai dit, on est censé marcher accompagné. Ne gardez pas cette décision que entre Dieu et vous. Vous avez besoin d'une famille. Et même si c'est des gens qui reviennent depuis un certain temps, vous êtes déjà là à l'église, parlez-en avec quelqu'un. Parlez-en avec quelqu'un. Si c'est la première fois, parlez-en. Si c'est la xème fois, parlez-en avec quelqu'un. Ne restez pas seul. Si vous ne savez pas vers qui parler, allez vers n'importe qui, à part moi, que vous avez vu ici parler. Allez vers un responsable de cette communauté qui puisse vous accompagner, qui puisse vous donner des conseils, qui puisse vous guider dans ses chemins. On va maintenant prier pour vos cœurs et je vais même reformuler ça, prier pour nos cœurs. Je suis complètement inclus avec vous dans cette prière, dans ce temps de prière. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on fasse une prière audacieuse tous ensemble. Mais ensuite, individuellement, qu'on décide de faire des actions audacieuses. Il y a trop de fois où on a une prière audacieuse dans les murs de l'église et on oublie cette audace quand on quitte l'église. Et cette prière audacieuse, elle doit être accompagnée d'actions audacieuses quand on sort d'ici. Si vous avez des cailloux dans votre cœur et que vous savez que ces cailloux, c'est relationnel, j'aimerais que vous puissiez aller et décider de faire une rencontre avec cette personne, de reprendre la conversation avec quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, de demander pardon ou de pardonner quelqu'un à qui vous deviez le faire. Il ne faut pas que ça reste juste ici. Mais ce que j'aimerais vous demander maintenant, toutes les personnes qui réalisent qu'il y a des jardins du cœur à travailler, est-ce que vous pouvez vous lever maintenant, qu'on prie ensemble? Rejoignez-moi, levez-vous et qu'on prie ensemble. Et alors que vous vous levez, vous verrez, vous n'êtes pas seul dans ce temps de prière. On va mettre une main sur nos cœurs. Et dire, Seigneur, on te consacre nos cœurs tout à nouveau. Seigneur, on se tient devant toi maintenant. On se tient devant toi et on te demande pardon pour les jardins de nos cœurs qui ne sont plus ouverts aux graines de ton royaume. Pardon pour les terrains arides, Seigneur. Pardon pour les terrains rocailleux. Pardon pour les terrains remplis de buissons où on a laissé d'autres choses prendre de la place. Seigneur, viens reprendre le trône de nos cœurs, Seigneur. On veut, Seigneur, produire pour les uns 100, pour les autres 60, pour les autres 30, mais on veut produire à nouveau pour ton royaume, Seigneur. On veut qu'au travers de nos vies, ton royaume puisse s'étendre, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des stratégies nouvelles afin qu'on puisse garder nos cœurs. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Seigneur, c'est toi notre trésor. Et on te donne tout à nouveau nos cœurs. Je te prie, Seigneur, pour tous les terrains piétinés, là où il y a du cynisme, là où il n'y a plus de foi, là où il y a l'envie d'abandon, Seigneur, viens, Saint-Esprit, et donne la force de travailler le terrain. Donne la force de faire face à cela. Je te prie, Seigneur, pour tous les terrains où il y a des cailloux, où il y a des choses qui sont venues entraver, où le flot de ta vie ne peut plus couler comme tu l'aimerais. Il y a des larmes. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Vous pensez à des situations, il y a des larmes. Ne retenez pas les larmes ce matin. Laissez les larmes couler. Laissez les larmes couler. Il y a des gens, vous avez retenu le pardon. Il y a des gens, vous avez retenu l'offense dans vos cœurs. Il faut laisser maintenant. Et c'est une décision qui est à prendre maintenant. Et Seigneur, pardon pour tous les soucis du quotidien qui viennent étouffer les graines de ton royaume. Que nos comptes bancaires ne soient pas plus importants et plus forts que ta voix dans nos vies. Que nos situations professionnelles ne soient pas plus importantes que ton appel pour nos vies. Que nos limites, compétences ne soient pas, Seigneur, des excuses pour ne pas entrer dans ce que tu as pour nous. Que les tracas du quotidien ne viennent plus étouffer ce que tu veux faire dans nos vies.